Alors, si vous voulez bien, on rappelle toujours au début, pas seulement pour les personnes qui sont pour la première fois, mais celles qui ne sont pas assistées à notre réunion. Alors, le but de notre société, son but, c'est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et les jeunes filles. Bien sûr, à notre réunion aussi, les messieurs sont bienvenus, parce que c'est souvent un problème un peu complexe. C'est pas si facile que ça. Alors, il y a deux moyens pour atteindre ce but. C'est l'union des âmes dans la charité, qu'on ne peut pas oublier. Et le deuxième, c'est la pratique de la modestie dans les habits. Un petit engagement, ce qu'on vient de faire, cela veut dire l'invocation Notre-Dame de la Sainte-Espérance convertisse-nous, Ave Maria, et Notre-Dame de la Sainte-Espérance convertisse-nous. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas de le réciter chaque jour. Bien. Aujourd'hui finir le résumé du livre de Don Maréchal sur la modestie chrétienne. Derrière vous, vous avez sur la chaire, vous avez le premier livre à gauche, c'est justement celui de Don Maréchal. Il y a d'autres livres sur la modestie. Ensuite, vous avez des lettres séculaires. Il y a aussi une petite information, une petite brochure de quoi s'agit-il dans notre société. Vous pouvez prendre pour les autres si vous pensez que cela pourrait être utile aux autres. Voilà. C'est-à-dire, pour les livres, il faudrait peut-être mettre quelque chose dans la corbeille, mais pour les vêtements, non. On vient de commencer. Voilà. Alors, rappelons-nous que nous avons commencé l'étude de notre livre, parce que nous voudrions le finir aujourd'hui, avec les saints apôtres Pierre et Paul. Ce sont eux qui nous ont transmis les règles sur la modestie. Ensuite, saint Thomas d'Aquin nous a donné des précisions bien précieuses, sur notre sujet. Puis nous avons regardé quelques exemples des femmes fortes, des combattantes contre l'immodestie, dont sainte Françoise Romaine. Parce que la modestie, c'est pas seulement l'affaire des hommes. Voilà. C'est pas seulement toujours des hommes qui se plaignent vis-à-vis des pauvres femmes. Voilà. Parfois aussi des femmes prennent des armes. Enfin, c'était la dernière fois, nous avons entendu deux saints prédicateurs du Moyen-Âge. Bernardin de Sienne et Vincent Ferrier. Et aussi un roi de France, Saint-Louis de France. Avec eux, nous sommes arrivés au chapitre 12 de notre livre. Voilà. Pour bien profiter de notre demi-heure, qui se raccourcit un peu moins qu'une demi-heure, pour bien profiter de notre demi-heure qui nous reste, allons à l'essentiel. Chapitre 12, les saints évêques du Moyen-Âge. Nous doutons, chères dames, demoiselles, chers messieurs, que les saints évêques du Moyen-Âge ne sont pas restés les bras croisés en face de l'immodestie. Prenons l'exemple de saint Antonin. Saint Antonin de Florence, un évêque dominicain. Le choix est tout à fait anodin, un dominicain. Une courte notice sur sa vie. Il est né en 1389, religieux italien, dominicain, à partir de 1405, archevêque de Florence de 1446. Il est mort en 1459. Sa fête, c'est 10 mai. Voilà, 10 mai, tout simplement. Alors, son épiscopat Il est signalé par sa charité. Il crée les confréries des buonomini, des bons hommes peut-être, di San Martino, des bons hommes de Saint-Martin, destinés à soulager les nécessiteux et les jeunes filles sans dos. Il a gagné l'estime du peuple par l'énergie et les ressources qu'il a dépensées pendant l'épidémie de peste et le tremblement. Bien. Voici un trait de sa vie qui touche la modestie. Passant par une rue de la ville, à Florence, il vit sur le toit d'une maison des anges. Voilà, on vient de commencer. Alors, passant par une rue de la ville, il vit sur le toit d'une maison des anges qui semblait se réjouir. Il entre dans la maison et il trouve trois filles pauvres, modestement vêtues, qui travaillent jour et nuit pour gagner leur pain et celui de leur mère veuve. Il en eut compassion et leur assigna une petite rente. Bien. Après quelques temps, le saint repasse au même endroit. Qu'est-ce qu'il voit ? Pas d'ange, pas d'ange, mais un diable. Un diable affreux. Voilà ce qui s'est passé. Alors, les filles, étant plus à l'aise, avaient commencé de s'attifer. Ça va s'attifer. Je pense que c'est exagéré dans la manière de se vêtir, c'est ça? S'attifer de coquetterie. Le saint les reprit et diminua le secours qu'il leur donnait. Il n'a pas retiré tout à fait. Bon, c'était en famille, c'était peut-être plus facile, mais en public, est-ce que notre évêque se comportait comme un évêque? En deux jours de grande solennité, il chassa de l'église des femmes qui portaient des toilettes immodestes. Ah, toujours les pauvres femmes, pas seulement. Et des jeunes gens qui venaient là pour les voir. Il faut être juste. Chapitre 14, vous voyez, on est rapide. On va aller sur le Saint Charles Borromée et ses statues. D'abord, présentation de sa vie. Né en 1538, décédé en 1584. Archevêque de Milan, cardinal de l'Église catholique. Grand artisan dans son diocèse de la réforme catholique, de la vraie réforme, voulue par le Concile de Trente. Il est considéré comme un modèle d'évêque post-tridentin, canonisé dès 1610 par le pape Paul V, et il est le seul en fait ayant été canonisé un an après sa mort. Bon. Maintenant, on canonise assez rapidement, mais ce ne sont pas la même sorte d'évêque. Il est liturgiquement commémoré le 4 novembre. Il participa activement au Concile de Trente, s'attachant à réformer les abus qui s'étaient introduits dans l'Église. Il fit rédiger le célèbre catéchisme, que vous connaissez toutes et tous par cœur, connu sous le nom de catéchisme du Concile de Trente. Rentré dans son diocèse de Milan, il visite ses paroisses, tient des synodes, réunit des conciles provinciaux. Ce qui est indiqué à grands traits dans les décrets de Trente, se trouve et fixé dans le plus petit détail dans les ordonnances de Borromée. Ordonnances, appelées autrement les statuts de Saint Charles Borromée. Et voilà, l'un de ces statuts s'appelle de la tenue religieuse. Excusez-moi. De la tenue religieuse dans le lieu saint. Il y rappelle les avertissements des apôtres Pierre et Paul concernant la coutume pour les femmes de se voiler la tête à l'église. L'archevêque précise. Nous rangeons aux prescriptions apostoliques, considérant qu'il y a abus criant à ce que les femmes aillent tête nue à l'église. Nous avertissons les évêques de mettre toute leur sollicitude pastorale à rétablir l'usage pour les femmes de se voiler la tête, surtout quand elles suivent les processions ou qu'elles se rendent à l'église. Le voile, voilà, le voile à l'église est pour la procession. Et pour la confession? Pour la confession, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, aucun confesseur n'entende en confession les femmes. Ah, il précise, les femmes qui s'approchent les cheveux frisés, bardés et teintes, avec boucles d'oreilles, portant des vêtements relevés d'or, de dentelle ou de parures raffinées, qui, en un mot, n'ont pas un habit, n'ont pas un habit modeste et simple, qui n'ont pas la tête couverte. Il donne des précisions par rapport au voile. Alors, je pense que c'est tout petit peu différent à ce qu'on voit dans nos chapelles. Je lis. Vous gardez pour vous. Il ne peut pas, vous n'avez pas pris d'air parapluie. L'étoffe dont les femmes doivent se voiler la tête à l'église ne doit pas être légère, mais épaisse. Non pas relevée sur le front, c'est ça, je pense, ou simplement placée sur les cheveux, mais solidement fixée par une aiguille ou de toute autre manière. Et parfois, quand on distribue la Sainte Communion pour les prêtres, parfois il y a des petits accidents. Voilà, une dame s'approche, fait un mouvement et justement le voile tombe. On voit ses beaux cheveux. C'est bon. C'est pas le moment. Il continue, il faut qu'elle cache entièrement les cheveux et qu'elle retombe sur le front. Fin de citation. Apparemment, c'est prié. Moi, je dis, je cite.
Parce qu'avec un contre-clou, on peut se mettre aussi des choses très aguichantes. C'est ça, on peut avoir une aiguille en argent, avec une grosse pierre, une grosse verre, et tout ça se passe.
Il y a toujours. Bon, la modestie, comme vous savez, c'est garder un milieu. C'est un milieu. Voilà. Entre exagération et entre négligence. On va voir tout à l'heure.
Avec un compte aussi du milieu dans lequel on se trouve, justement. On l'a dit sur la vidéo. J'ai une collection, là, vous pouvez regarder tout à l'heure. De quoi? Bretonne.
Oui.
Elles sont jolies, monsieur, ça fera des bizarres.
Si elles ont de la concurrence.
Les jours de fête, quand vous revenez, peut-être, dans la
semaine. On n'est pas en Bretagne. Oui, mais il y a toute la France, elle sait quoi. Oui, c'est ça. Ça, les bretons jolies, sont très belles aussi. Chacun sa petite culture de quoi.
Les bretons jolies, c'est plus ça.
Bien, continuons sur le lieu. Chapitre 15e, Saint François de Sales et ses instructions. Avec lui, nous sommes à cheval entre 16e et 17e siècle. Sa vie d'abord. Né en 1567, mort en 1622. Évêque de
Genève.
Très bien. Proclamé saint et docteur de l'Église catholique. un grand pêcheur, pas pêcheur, aussi peut-être pêcheur, mais grand prêcheur, au siège de l'évêque de Genève. Il a fondé avec la baronne Jeanne de Chantal l'ordre religieux de la
Visitation.
Oh, voilà. Érudite. Il exerça une influence marquante au sein de l'Église catholique, mais également envers les détenteurs du pouvoir temporel. Par exemple, le duc Charles-Emmanuel Ier, Victor Amédée Ier de Savoie, la régente de Savoie Christine de France, et le roi Henri IV et Louis XIII de France. Homme d'écriture, il laissa une somme importante d'ouvrages. Qu'est-ce que vous connaissez de Saint-François de Sales? Je vous écoute. Comment?
À propos de Réalisez-vous.
Oui, c'est magnifique parce que c'est justement son ouvrage le plus répandu, le plus populaire.
Traité de l'amour de Dieu,
non? Oui. Oui, c'est le deuxième.
Bon. Il y a beaucoup d'autres.
Alors, vous êtes très bien répondu. Alors, autrement, l'introduction à la vie dévote s'appelle aussi philotée. Par exemple, chez nous, dans mon pays d'origine, on dit tout simplement philotée. Hein, pour ceux qui ne font pas l'introduction à la vie dévote. Bien. Alors, si vous le dites, origine du livre. Origine du livre. C'est au cours de l'année 1608 qu'il écrivit son œuvre la plus connue, Introduction à la vie dévote. Bien. Au début, François de Sales écrit des conseils à sa cousine, Madame de Charmoisie, qui veut apprendre à être dévote, c'est bien, et connaître une vie de prière, encore mieux. François de Sales entreprend donc une correspondance avec sa cousine, lui prodiguant des conseils spirituels. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait lire ses lettres de François de Sales autour d'elle, jusqu'à ce qu'un jésuite lui demande de les publier. François de Sales accepte donc de reprendre les lettres et de les publier après quelques retouches, sous le titre d'introduction à la vie dévote. Il se divise, et elle se divise, cette introduction, en 5 parties. La première partie enseigne comment passer du désir de Dieu à sa réalisation. La deuxième cherche à apprendre la perfection. La troisième, qui va nous intéresser, est consacrée à la pratique des vertus. Quatrième indique les obstacles à la prière. Et la dernière, la façon de renouveler la ferveur du devant. Bien. Alors, pour notre sujet qui nous intéresse, il se trouve dans la troisième partie, Pratique des vertus, chapitre 25e, que je vous conseille à lire, qui est intitulé, il y a des titres différents selon les éditions, disons, de la bienséance des habits. Nous allons nous servir pour cela, surtout du livre du chanoine Vidal, aux sources de la joie, avec saint François de Sales. Est-ce que vous avez lu peut-être? Je pense qu'il en vante, mon père.
Oui, il en vante.
C'est beaucoup plus complet que dans la Réchaud. Alors, mais écoutez jusqu'au bout, attendez. Voilà, ça y est, écoutez ce que je
vais dire. Mais c'est la référence, chapitre
d'accord.
25, c'est ça du...
25, oui.
Introduction, voilà. Troisième. Sourde de la joie, alors, je ne sais pas parce que je prie sur ailleurs. Je ne sais pas si l'édition est bonne. Alors, je vous dis, notre édition, c'est parti de la page 74. Alors, son chapitre, c'est la simplicité dans le comportement habituel. Il y a plusieurs points, 5 points. Quatrième point, c'est dans la tenue. Le sujet qui nous intéresse, c'est à partir de la page 74. C'est bon? N'hésitez pas de poser cette question si vous voulez des références. Ce qui est frappant chez notre saint, pour lui, la modestie extérieure, est au deuxième plan.
Ah, c'est pas devant.
Ah.
Il y a combien de plans,
au total? Deux, au moins deux. Pourquoi c'est pas en premier lieu? Pourquoi peut-être il ne faut pas que les dames immodestes lisent Saint François de Sales dans ce cas? Parce que l'immodestie, c'est douze influences, c'est après. Voilà. Mais écoutez bien, pour lui, la modestie extérieure est comme reflet de celle intérieure. Vous voyez, c'est important. Il ne suffit pas de dire, vous habillez surtout jeune fille, vous habillez comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'un jour, elles vont dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'elle se convertisse intérieurement pour se convertir extérieurement ensuite. Les deux choses sont nécessaires. Citation de l'introduction. C'est un passage assez long, mais je préfère de le lire en entier. Pour moi, dit-il, Saint François, je n'ai jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur. Par les contenances, les habits, les cheveux. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur. Convertissez-vous à moi, dit Dieu, de tout votre cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Car aussi le cœur étant la source des actions, elles sont telles qu'il est. Quiconque a Jésus-Christ en son cœur, il l'a bientôt après en toutes ses actions extérieures. C'est bien vu. C'est pourquoi, cher Philothée, j'ai voulu avant toute chose graver et inscrire sur votre cœur ce mot saint et sacré, vive Jésus. Assurez que je suis, qu'après cela, votre vie, laquelle vient de votre cœur, comme un amandier de son noyau, beaucoup d'images, très imagées, produira toutes ces actions qui sont ses fruits, écrites et gravées du même mot du salut. Et que quand ce doux Jésus vivra dedans votre cœur, il vous vivra aussi en tous vos déportements. Est-ce qu'on dit comme ça aujourd'hui, déportement? C'est comportement?
Comportement.
Il dit déportement. Et paraîtra en vos yeux, en votre bouche, en vos mains, voire même en vos cheveux. Un témoignage de Monseigneur l'évêque de Belley. Quand il voulait, Saint François de Sales, porter les âmes à la vie chrétienne et leur faire quitter la vie du monde, il ne leur parlait point de l'extérieur, ni des cheveux, ni des habits, ni de semblables choses. Il ne parlait qu'au cœur et du cœur, sachant que ce donjon gagné, le reste ne tient plus. Voilà, il donne l'exemple, une image. Quand le feu est dans une maison, disait-il, voyez-vous comme l'on jette tous les meubles par les fenêtres? Quand le vrai amour de Dieu possède un cœur, tout ce qui n'est point de Dieu nous semble fort peu de choses. Un exemple un peu drôle. Un jour, une jeune demoiselle vint trouver Saint François de Sales. Monseigneur, j'aime bien vos filles de la Visitation et encore plus la digne mère. Je voudrais bien me joindre à elle pour servir Dieu toute ma vie. Il n'y a qu'une chose qui me peine. Qu'est-ce que ça pourrait être?
La façon de s'habiller.
Oui. Ce que je peux me résoudre à quitter, mais pendant d'oreille. Pendant d'oreille. Réponse de l'évêque. Alors lui répond l'évêque, avec un bon sourire. Ne laissez pas pour cela de vous donner à Dieu. Il lui permit de les garder. Mais de la suite. Mais bientôt, la novice préféra la simplicité de son voile à la vanité de ses bijoux. J'espère que vous vous souvenez qu'en parlant avec saint Thomas au sujet de la modestie, nous disions que c'est une vertu morale qui se tient comme un sommet au-dessus des deux erreurs. Le premier s'appelle trop, l'autre trop peu. Et saint François de Sales nous en dit quelques mots de cette manière. Premier abus, trop peu ou défaut. C'est la négligence ou la malpropreté de laisser aller. le voile. Quant à la netteté, elle doit presque toujours être égale à nos amis, sur lesquels, tant qu'il se pourra, nous ne devons laisser aucune sorte de souillure et l'ironie. C'est que la netteté extérieure représente en quelque façon l'honnêteté intérieure. C'est avec le même soin que nous éviterons le laisser-aller, manque inconscient de respect envers ceux que l'on approche. On n'est pas tout seul sur la terre. Soyez propre, piloté. Qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et mal agencé. C'est un mépris de ceux avec lesquels on converse d'aller entre eux en avis désagréable. Mais étant donné qu'on perd davantage par le troc, par le trop peu, ça passe de ça, même pas qu'il. Mais je vais seulement dire un seul mot. Ensuite vient l'abutron, le plus courant. C'est la vanité. Alors saint François de Sales stigmatise avec énergie les filles du monde qui portent leurs cheveux éparpillés et poudrés. Leur tête est ferrée comme l'ont fait les pieds des chevaux. Les chevaux. Elles sont plus empanachées et bouquetées qu'il ne se peut dire. Bref, elles portent quantité d'affiquets. Affiquets, ça va. A, 2, F, I, U-U-E-T-S. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme le cerveau qui est toujours employé aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Sans doute, oui, c'est ça, les parures.
D'accord. Des choses supplémentaires. Alors, à côté, trop éloigné de la simplicité chrétienne et du bon goût. Et aussi, maintenant, on touche un petit peu ce que le père prieur vient d'en parler. Alors, de la bienséance. La bienséance a aussi ses exigences. Voilà. Par exemple, l'évêque blâme doucement Madame de Charmoisie, qui n'habille pas sans vice convenablement à sa qualité. Voilà. Je vous écrivis, avant-hier, ma très chère cousine, ma fille. Mais maintenant, il faut que je me corrosse un peu avec vous. Parce que mon neveu n'est pas habillé convenablement à sa qualité, ni au service auquel il est. Et outre que cela lui détraque l'esprit, voyant ses compagnons beaucoup mieux que lui, cela est blâmé par ses amis, desquels quelques-uns m'en ont parlé avec zèle. Il n'y a remède, ma très chère fille, il n'y a remède, oui. Il faut suivre les lois du monde. Il demande, puisqu'on y est, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu. Voilà. On a vu tout petit peu avec saint Thomas la bienséance qui a ses exigences, aussi bon, ses charmes, si on peut dire qu'on peut permettre à cette personne qu'on ne peut pas permettre à une autre. En fait, elle varie, toutes ces choses, avec l'âge et la condition. Elles ne sont pas les mêmes pour les jeunes filles, les femmes mariées et les veuves. Toujours saint François de Sales. Je pense qu'on a vu quelques passages déjà, mais ça vaut la peine de le rappeler. Les filles. On permet plus, bon, toujours les mots affiquer aux filles. Parce que peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne soit qu'afin d'en gagner un par un saint mariage, un femme mariée. Femme mariée, avec la même justesse de vue, il note que la femme mariée se peut et doit orner auprès de son mari quand il le désire. Il donne un exemple. Alors, écoutez jusqu'au bout. Comme d'habitude. Voilà. Je connais une dame, écrit-il, Saint-François, des plus grandes âmes que j'ai jamais rencontrées, laquelle a demeuré longtemps en telle suggestion sous les humeurs de son mari, que, au plus fort de ses dévotions et ardeurs, il fallait qu'elle fût toute chargée de vanité en l'extérieur et qu'elle ne communiait jamais, sinon que ce fût à Pâques, consacré et à-dessus de tout le monde. Autrement, elle eût excité mille tempêtes en sa maison. Et par ce chemin, elle est arrivée bien haut, comme je sais, pour avoir été son père de confession fort souvent. Maintenant, les veuves. Pour les veuves qui pensent à un second mariage, on ne trouve pas, trois points de suspension, mauvais, qu'elles se parent aucunement. Toutefois, sans excès. Mais quand aux vraies veuves, je pense que c'est vieux français parce que je ne comprends pas beaucoup, mais quand aux vraies veuves, je pense que c'est ça, qui le sont non seulement de corps, mais aussi de cœur, nul ornement ne leur est convenable sinon l'humilité, la modestie et la dévotion. Et pourquoi ? Car si elles veulent donner de l'amour aux hommes, elles ne sont pas vraies veuves. Et si elles n'en veulent pas donner, pourquoi emportent-elles les outils? Et maintenant, une image. Qui ne veut recevoir les hôtes, il faut qu'il ôte l'enseigne de son logis. Vous comprenez?
Oui.
Voilà. Bien. Oh là là, on passe. On passe. Le temps passe et nous pousse à sauter quelques chapitres. Pas de chance, vous avez quelque chose, vous avez votre devoir. Chapitre 17e, à lire vous-même, de Livre de Maréchal. Est-ce qu'il y a pour tout le monde, j'espère? Sinon, j'ai encore pour les personnes qui ont des bons yeux, en petit format. Est-ce que tout le monde a là? C'est bon? Vous allez lire plus tard. Plus tard.
Merci.
C'est bon?
Merci.
Alors, nous arrivons au chapitre 19-20. Du livre de Maréchal, à la fin du 19e siècle, au pape Pie IX. Assez rapidement, une courte notice sur notre cher pape. Né en 1792, mort en 1878, à l'âge de 85 ans. Son pontificat de 32 ans est le plus long de l'histoire de la papauté après
Jean-Paul II.
Saint-Pierre.
Après Saint-Pierre.
Oui.
Alors j'étais d'abord du même avis, mais du même avis. Alors ce que je dis ici. Alors
Saint-Pierre.
Alors je lis. Pie IX, 33 ans. Jean-Paul II, c'est quoi? 27. Ensuite c'est Léon XIII.
Et sa
carte,
c'est combien de temps?
Je sais pas.
33 à 67.
34 ans.
D'accord, continuons. Alors.
67, c'est
anniversaire, c'est pour jamais différent. Continuons. Sauf si vous voulez, comme on dit, le prolonger, moi je n'ai rien contre. Pie IX est le pape qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Il a également convoqué le premier concile œcuménique du Vatican. Voilà, Pie IX est aussi le dernier souverain des États de l'Église qui disparaissent en 1870. Entre 1867 et 68, Pie IX fait paraître une lettre où il indiquait un des plus grands mots de son temps. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il en a indiqué trois. Alors, avant, qu'est-ce que ça pouvait être? Je vous dis que si c'est le premier, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je vous dis... Comment ?
L'abandon de la doctrine.
Pas forcément. Alors, c'est plus fort. Hein. C'est plus fort, en fait. C'est le blasphème. Deuxième, la violation du repos dominical. Et troisième. Bon, il n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait que c'est le réchauffement de la planète, ou le fait de priver les divorcés, les mariés de l'accès à la sainte table. Quelle discrimination. Les temps ont changé, les papes aussi. Alors, pour Pinève, ce mal est le troisième, est le luxe des femmes, lié à l'indécence des vêtements.
Pour le 19e siècle.
Comment ?
Pour le 19e siècle.
Mais c'est pas bon, hein. Je pense que c'est pas amélioré. Non. Alors.
Parce qu'il y a toujours eu quand même.
Mais apparemment, c'est aggravé. Alors, je continue, si vous voulez bien. Voici juste quelques passages de son bref adressé à Madame Marie de Gentel. Je ne sais pas si je comprends bien. Ça vous dit quelque chose ?
Gentel ? Non.
Un bref de louange pour sa brochure « Appel aux jeunes femmes chrétiennes ». Sur quelques passages. Voilà, par rapport au luxe. Luxe, qui par les soins recherchait du corps et de la chevelure, soins qu'on renouvelle même plusieurs fois le jour. Voilà. Celui qui absorbe le temps qu'on devrait consacrer aux œuvres de piété et de charité. Et au devoir de la famille. C'est lui qui apprend à courir de maison en maison sous prétexte de devoirs à remplir et à s'y livrer à l'oisiveté, à la curiosité, etc. C'est lui qui sert d'aliment au mauvais désir. Lui qui consomme les ressources que l'on devrait réserver pour ses enfants et enlève à l'indigence les secours qui lui viendraient si à propos.
Et je ne me rappelle plus en quelle année il a écrit ça, le pape.
Alors c'était, je vous dis tout de suite,
1867.
C'est ça.
1867.
Alors ici, Tertullien, bon, c'est un peu drôle, mais. Il faut bien comprendre l'esprit. Et ici, le pape Eustige, c'est la vie d'une grande exagération. Une grande exagération. De se montrer, avoir. Bon, écoutez. Comme le disait Tertullien, on étale dans un très petit écrin un immense patrimoine. On met dans un collier 10 millions de sesterces. Une tête frêle et délicate porte le prix des forêts et des îles. De fines oreilles absorbent les revenus d'un mois. La main gauche joue de chacun de ses doigts avec autant de sacs d'or. La vanité donne la force à un seul corps, un corps de femme, de porter un capital énorme. Tertullien. On pourrait objecter, on a vu tout à l'heure l'exemple cité par Saint François de Sales, voilà, que c'est uniquement pour leur mari, que les épouses se parent tellement, d'accord, avec un peu de vanité, mais bon, on veut vouloir plaire à nos deux époux, notre Seigneur et Monsieur Intel. À Pinève de répondre que toutes ces dames qui s'adonnent au luxe, que toutes ces femmes se persuadent bien que pour se concilier l'estime et l'affection de leur mari, elles n'ont pas besoin de coiffures si coûteuses, elles ont besoin de coiffures, mais pas si coûteuses, de toilettes si splendides, mais bien plutôt de cultiver leur esprit, de cultiver leur cœur, de cultiver la vertu, car toute leur gloire vient de du dehors. Voilà les grandes lignes du livret de la brochure de Don Maréchaux. Ainsi, nous avons une vue d'ensemble sur la question de la modestie, telle que l'Église a toujours comprise et enseignée. Bien. J'espère que ce n'est pas trop résumé. Ça va? Tout simplement, c'est pour vous inciter à que vous lisiez vous-même ce livre. Est-ce que vous avez des questions?
Non, j'ai juste une remarque, un commentaire en fait. Oui, vous avez cité la Visitation, et au musée de la Visitation de Moulins, si vous passez par là, vous y allez, il y a, on voit le trésor en fait du musée, où toutes les dames veuves de la haute société rentraient pour être religieuses, et elles donnaient au couvent tous leurs bijoux, qui étaient réutilisés. Alors les bagues étaient, ce qui m'a marqué, hein, oui. Bien sûr, c'était un vrai, un vrai bijoutier, là. On va au musée, on a des superbes bijoux, hein.
Ça c'est clair. Mais,
ça vous donne des idées,
non? Non, mais c'est joli, c'est rien pour, parce que c'est beau, c'est vrai, c'est beau, c'est le travail d'art, des belles choses, il faut dire ce qu'il y a quand même, c'est beau. Après, que ce qu'on ne porte pas, c'est normal. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est que les bagues étaient utilisées pour les... Alors, le terme liturgique, je ne le connais pas forcément, je crois que c'est le pavillon qui sert le... qui recouvre le... le calice,
le
ciboire. Pour là, le prêtre a un anneau pour pouvoir prendre le pavillon. Et donc la bague était accrochée. Et donc le prêtre, vraiment, je trouvais ça très joli. En même temps, le guide qui nous faisait visiter disait ces dames ont tout donné et comment dire, elles ont abandonné leur argent, leur fortune, et cet argent sert à la gloire de Dieu. Et en même temps, celle qui avait un certain regret, comme vous dites, qu'il y a cette dame qui voulait garder, cette jeune femme qui voulait garder ses boucles d'oreilles, il y avait un motif de donner ses bagues parce que ça sert à notre Seigneur. Voilà.
D'ailleurs, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'apparemment, tout n'a pas été transformé.
Les bagues, ah non, elles n'ont rien. Elles sont comme ça, là. Elles sont cousues sur le petit papillon et voilà. Donc, quelqu'un de
réutilisé.
Ben oui, si on peut les réutiliser, quelqu'un de malveillant va prendre une paire de ciseaux et puis récupère la bague. Hein. Voilà.
D'accord. C'est bien antique, alors. C'était bien ancien.
Ancien, ben c'est déjà, voilà, la Visitation, c'est pas cher, c'est ça.
Dans 1500, 1600,
des Visitation, c'est 1500, ça.
1614, 17e, oui.
C'était fondé au début du 17e. 1600,
oui. Donc c'est quand même pas si ancien. Et Saint-François, il n'a pas été évêque d'Annecy aussi?
Si, ben oui, si, si.
Il était évêque de Genève, il n'a pas été évêque d'Annecy?
Oui, si. Je crois bien. Je pense qu'il est. En fait, il était évêque de Genève, c'était son titre. Mais il n'est jamais allé à Genève parce qu'il s'est occupé par les
protestants.
Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, son siège, il a été ainsi.
Alors, pour bien entrer dans le temps de la Passion, je vous ai promis un tout petit peu d'humour. Une dame demandait un jour à l'illustre évêque de Bordeaux, Monseigneur de Chevreux, ce qu'il fallait penser du phare, F-A-R-D. Vous connaissez? D'accord, mais vous connaissez l'anecdote? Non, d'accord. J'ai trouvé, dit-elle, des confesseurs qui l'autorisent, d'autres qui le condamnent. Quel est, Monseigneur, votre sentiment sur ce point? Réponse. Pour moi, dit le spirituel prélat, pour moi, qui aime les opinions moyennes, je vous le permets d'un côté.
D'un côté.
D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D' ça, on partage.
Alors, un petit annonce, si vous voulez bien. Alors, une dame nous a écrit. Alors, pour la réponse, vous pouvez vous adresser à votre serviteur. Je voulais savoir si parmi les dames, monsieur vous êtes exquis, parmi les dames qui font partie de la société, qui voudraient le faire, si quelques-unes seraient prêtes à offrir leurs compétences en couture pour faire des jupes à nos filles qui grandissent. Voilà une question très pratique. Je couds un peu, mais le temps pour le faire est vraiment difficile à trouver. Merci à vos mentors, etc., de nous aider à trouver des solutions. Je vais vous réfléchir. Ça, si vous avez la réponse. D'accord. Bon, on me dirait, vous avez réfléchi. Très bien. Est-ce que vous avez des idées, vous voulez voir pour la prochaine fois quelque chose qui vous intéresse au sujet de la mendicité? Parce qu'on a déjà fini le livre de marche.
La prédate, c'est quand?
D'accord, on va fixer. D'accord, je voulais à la fin. Mais... ça dépend, ça dit que la date, de la date dépend le sujet, à point, non?
Non, je
pourrais
être
là, non? D'accord. Mon père, peut prier.
On peut faire une prière, on va la prier, c'est ça?
Oui.
Oui.
Bonjour.
Oui.
Super. Il est plus jeune.
Alors, vous avez des idées? Non.
Sur la modestie, typiquement.
Ou quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions, je ne sais pas, ou qui sort de, je ne sais pas, avec vos entretiens, avec les gens, les autres gens.
En tout cas, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles et c'est toutes jeunes.
Oui, on s'arrêtera. Alors, s'il vous plaît bien, des propositions de sujets. Premier, pour une bonne préparation pour l'année suivante, l'année de Fatima. Peut-être Fatima ou les enfants de Fatima et la mendicité. Mm-hmm. Oui.
Mais Fatima, c'est déjà commencé. Hein.
Comment?
C'est déjà commencé.
La préparation?
Bah oui. Parce que c'est la 16, c'était l'apparition orange.
Mais il y a tard que j'en ai. Ou bien, alors, ça serait quelque chose de plus solide. C'est le problème moral et pédagogique de la mode, enseignement pontifico. C'est en fait pilouse. Alors je vous dis, mais ça on ne peut pas faire en une seule session, en une seule fois. Alors je vous présente assez rapidement quelles sont les parties. D'abord les fondements, la dignité du corps humain. Voilà. L'homme est à la fois matériel et spirituel. Le chrétien est membre du Christ, temple du Saint-Esprit. Voilà. Ensuite, la morale chrétienne. Elle est surnaturelle. Pilos oppose la vérité à l'erreur en morale. Bon. Ensuite, enseignement pontificaux relatif aux vêtements et à la mode. Premier chapitre. La triple finalité du vêtement. Voilà, on a tout petit peu vu, mais c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, comment se pose le problème de la mode? Qu'est-ce que la mode? Y a-t-il un problème moral de la mode, etc. Ensuite, directive. Principe et directive pratique. Est-ce que ça vous intéresse?
Oui,
c'est bon.
Comment ça s'appelle?
Le problème moral et pédagogique de la mode. Mmh. enseignement pontificaux. Alors, quand vous voulez, alors, on pourrait peut-être pour la prochaine fois prendre justement à la fin pour bien finir l'année scolaire et de me préparer pour l'année prochaine pour Fatima et la modestie. Et l'année scolaire suivante, on pourrait justement travailler doucement chaque chapitre, chaque section, doucement mais sûrement. Est-ce que ça vous convient?
Oui.
Si vous avez d'autres idées entre le temps, n'hésitez pas.
Alors, j'ai une idée, alors, il vaut ce qu'elle vaut. C'est plus voir la. Comment dire le. La femme dans la littérature, la bonne littérature, j'entends, et je pense notamment à René Bazin, qui montre sans moraliste, sans rien du tout, la femme chrétienne, la femme, la mère, la religieuse, et en même temps, la femme, soit qui a abandonné la pratique religieuse, soit qui n'a rien reçu. D'accord. Et en fait, on voit souvent les deux vies en parallèle, même si c'est pas forcément ce qu'a voulu dire René Bazin, mais lui il a tellement c'est un roman à thème quand même, c'est un romancier à thème, donc là j'ai fini récemment le Gingolf l'abandonné, où c'est un jeune homme, un jeune marin qui est abandonné par sa fiancée qui est tout à fait mondaine. En fait, elle ne pense que en plus elle est bourgeoise, elle a beaucoup d'argent, enfin c'est pas beaucoup d'argent. Et finalement, ce jeune homme est trop pur et trop simple pour elle. Donc elle l'abandonne. D'accord. Et à côté de ça, on a une autre jeune fille. Bon, la maman voudrait bien que Gingolf se marie avec cette jeune fille, mais finalement, lui, il ne veut pas. On a le pendant, si vous voulez, Marie, et puis l'autre. C'est vrai que chez René Bazin, ça permet de parler sans faire de la morale, finalement, vestimentaire. Je suis d'accord avec vous sur la longueur des jupes et tout, mais c'est vrai, quelquefois ça peut paraître un peu, quand on dit aux personnes, surtout quand on les connaît pas trop, venez, vous allez à la messe avec nous au couvent, mais prenez une jupe longue.
Oui, mais parce que justement, comme disait le père, il faut tenir du cœur.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que parler et puis pouvoir de me proposer un livre, tiens, regarde, lis ce livre et puis on en parle.
Il faut aller doucement, vous voyez, il faut aller pour le corps et pour l'âme assez doucement. C'est-à-dire que de notre côté, cette personne, même si elle est inconsciente d'être habillée, comme on dit, immodestement, parce que tout le monde s'habille comme ça, elle pense même qu'elle s'habille modestement, je ne sais pas, c'est un peu un autre monde où les gens vivent aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Et on ne veut pas, comment dire, être dur avec cette personne-là.
Bien sûr,
comprenez.
Bien sûr.
Voilà. Mais. Ça vous remarque tout à fait. Alors, je vois que vous êtes prenante pour une
Oui, c'est vrai, René Bazin, je l'aime beaucoup.
Mais ça peut, comme on dirait, je ne sais pas pour
vous. Il y a matière pour bien plusieurs.
Ah, oui, tous les livres.
Ça peut attendre.
Pratiquement tous les livres de René Bazin, il y a ça. Il y a la femme, la vraie femme, et puis la pauvre femme.
D'accord, voilà. Prenez la note.
Est-ce que justement, en donnant le titre, ça ne ferait pas venir des petites jeunes filles?
Oui, c'est
si
ça.
Si on donnait le thème, parce qu'elles doivent se dire, ça va être archi barbant, j'y vais pas, non, toujours moi arraché.
C'est un vieux temps aussi, la parole de la fille, elle est en pension, donc.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça.
Quelle fille pour aller dans le travail, donc. Oui.
Aussi. On juge pas qu'à part quand même. Oui. Bonne idée, merci beaucoup de.
Il y a eu un congrès comme des bananes la semaine dernière, justement, les conférenciers qui disaient que c'était un thème qu'il faudrait causer, la question de la femme chez René Bazin.
Ah oui,
ça n'a jamais été vraiment traité.
Tout le temps.
Mais comme vous dites, on parle souvent. Et il y a le roman de David et Olivier Giraud,
c'est
ça ?
Oui.
C'est intéressant. Comment elle est. Il a suscité tout un mouvement d'institutrices. Qui sont des associations pour les communs de l'Église catholique, rien qu'avec son roman.
Oui.
C'est un
roman de. Les engagements magnificat, le roman magnificat, c'est extraordinaire. Surtout pour les prêtres en même temps.
D'accord.
Une jeune femme qui pensait se marier avec un jeune homme, finalement, un jeune homme se découvre une vocation tardive,
Et alors, tout tombe, et elle, comment elle, soit elle se révolte, soit elle offre toute sa souffrance et tout. Pour, en plus, elle vend des vêtements pour pouvoir lui payer le séminaire. Enfin, c'est très très beau. Très très beau.
En plus, comme vous dites, c'est comme ça, pas. Il le fait de façon suffisamment habile que ça ne repugne pas, parce que là c'est intéressant, ce qu'on est, ce qu'il organisait, ce n'était pas spécialement des catholiques, mais on voit que ça les intéressait et que finalement ils arrivaient à dire des bonnes choses parce qu'ils quand ils parlaient de René Bazin, quand ils parlaient d'autre chose, ça ne les pas tellement. Mais ça leur faisait du bien.
Oui, en plus il écrit très très bien, c'est un français, c'est super. C'est... Voilà. Sa maison est à vendre. Voilà, une belle maison. Les grands jardins sont à vendre. C'est où ? À Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et si vous voulez une petite promenade, là, voir le cimetière de Saint-Barthélemy-d'Anjou, il y a la tombe de René Bazin. Lui, cet homme académicien qui était connu en France, qui était reçu par beaucoup de monde, sa tombe est d'une simplicité. Il a marqué comme son épitaphe, c'est « Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence à toute la vérité catholique. » Point. Il n'y a pas le titre d'académicien, hein, il n'y a pas le titre de roman qu'il a écrit, il n'y a pas... c'est beau, quoi. C'est beau.
Et il paraît que vous avez dit comment il a fait applaudir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à l'Académie française. Son discours de...
Ah oui, ça je ne sais pas.
C'était très très habile. Hein. Ouais. Il a tellement bien mené la chose que qu'il a beaucoup d'économie. Il a prononcé le mot. Je n'ai jamais commencé dans la famille française. Tout le monde a le droit.
Madame Bazin, c'est pas lui, c'est le père qui est logé au Reflet. Je sais pas. Je sais plus, la maison du Reflet avant appartenait à un écrivain. C'est pas lui.
Non, parce que ça fait
pas lui. Il est en juin, oui. Mais la Reflet, c'est pas le bout du monde. Hein. C'est pas long, c'est pas long, je trouve. C'est long. Je sais qu'au départ, moi, j'allais beaucoup là-bas, mais puis nous, on avait fait du débrouillage de choses qui avaient appartenu à un écrivain. Donc,
ça, ah oui, il y a quand même plusieurs écrivains en France aussi.
Oui, oui, il me semble bien. C'était René Bazin.
Oui, pratiquement. Je m'en étais
pas
rendu compte, ça peut être.
Il y a
Celui-là bien, on va clore notre réunion.